On se dit tout sur France Bleu, Vanessa Lambert.
Et bienvenue dans On se dit tout. Tous les jours, c'est un nouveau décor, une nouvelle histoire grâce à vos témoignages sur des sujets qui vous concernent, qui vous ressemblent. Et voici un avant-goût du thème d'aujourd'hui.
Eh bien écoutez, Jean-Pierre Elkabbach, c'est absolument extraordinaire ce qui se passe ici. Nous sommes en plein boulevard Saint-Germain et trois fois les manifestants ont chargé les CRS, trois fois les CRS sont reculés. Et maintenant, en direct, comme vous le disiez tout de suite, les CRS chargent. Je suis en plein dans la charge des CRS, ils contre-attaquent tandis que les pierres volent autour de nous, que les grenades explosent. Vous entendez les CRS qui crient pour s'aider mutuellement, mais vraiment c'est une scène d'émeute extraordinaire.
C'était il y a 50 ans, mai 68, et vous l'avez peut-être vécu directement ou indirectement. Alors soit vous aviez effectivement 18, 20 ans en mai 68, vous étiez étudiant au cœur de la révolte, ou alors syndicaliste, ouvrier, et vous aussi vous aviez vos luttes. Venez nous raconter comment vous l'avez vécu au 0810 055 056. Et puis mai 68, c'est aussi une époque, une bande originale, un état d'esprit, la musique, la mode, les médias. Venez nous rejoindre en compagnie aujourd'hui d'Éric Allary, agrégé d'histoire, enseignant et auteur du très beau livre il y a 50 ans, mai 68, aux éditions Larousse. Bonjour Éric.
Bonjour.
Votre livre balaie tout mai 68, avant, pendant, à Paris, mais aussi en Provence, parce qu'on a souvent tendance à penser que mai 68, c'est les étudiants parisiens, c'est pas que ça.
Non, mai 68, c'est toute la France. Les grandes villes ont vu leur cortège de manifestants, plus ou moins calme, plus ou moins violent. Et il y a des villes où la violence a été aussi importante qu'à Paris. Évidemment, le focus a été plutôt mis sur Paris. Et le monde regardait Paris à ce moment-là, pendant les événements de mai 68,
Paris le quartier qui brûlait.
Paris qui brûlait, voilà. Et en même temps, une vision que le pouvoir gaulliste à l'époque ne voulait pas laisser se diffuser. L'idée que la France était en pleine révolution, ça aurait été faire beau jeu aux gauchistes et à ceux qui souhaitaient le grand soir.
Alors, votre livre est incroyablement documenté. Il y a beaucoup de photos, puis il y a aussi beaucoup de reproductions de documents originaux, des journaux, des tracts, des affiches. C'est un très beau livre en plus, au-delà de l'information. Ce qu'il y a dedans aussi est très beau et très documenté.
Oui, il est important pour ce sujet-là de donner un peu de chair à un texte qui est un peu moins épais qu'un essai de 400 ou 500 pages, évidemment. Mais il nous fallait absolument donner de la chair, donner des couleurs, un papier journal jauni qui a été reproduit de la même façon. Et en même temps, il fallait que ceux qui regardent mai 68 aujourd'hui se rendent compte que c'est une époque de grande liberté, de grands espoirs, une époque de tragédie, une époque où le vinyle était en pleine ascension, avec notamment les disques de Bob Dylan, de Johnny Hallyday, et c'est aussi tout cela qu'on a voulu montrer, faire partager aux gens des sources, et pour l'historien, des sources, les archives, c'est quand même la matière première.
Eh ben on y va, et on va faire le tour de la question avec vous. Mai 68, vous l'avez vécu, vos parents l'ont vécu, ça vous intéresse encore aujourd'hui, et vous vous documentez, vous vous renseignez. Venez nous rejoindre et venez en parler sur France Bleu.
Vos témoignages, vos expériences. On se dit tout sur France Bleu.
Mai 68, c'était il y a 50 ans et on en reparle avec vous aujourd'hui sur France Bleu, avec vous qui l'avez vécu de près ou de loin. Alors peut-être que ce sont vos parents qui l'ont vécu et qui ont grandi dans l'esprit 68art, comme on dit encore aujourd'hui. Ça fait quoi d'ailleurs d'avoir des parents comme ça? Et puis si vous aviez 15 ans, 20 ans, 30 ans en mai 68, vous l'avez forcément vécu différemment. Peut-être pas au cœur du conflit, mais même en étant à Nancy, à Bordeaux, à Strasbourg, on a vécu mai 68. On entendez bien qu'il se passait quelque chose. Venez nous rejoindre avec vos souvenirs, votre ressenti, et puis ce qu'il en reste aussi aujourd'hui de mai 68. On se dit tout avec Éric Allary, agrégé d'histoire, professeur à l'Institut politique de Paris et auteur du livre « Il y a 50 ans, mai 68 » aux éditions Larousse. Et nous sommes avec Gérard en région parisienne. Bonjour Gérard.
Oui, bonjour Vanessa et bonjour Éric.
Bonjour.
Vous aviez 12 ans en mai 68.
Oui, 12 ans, et il me reste un souvenir encore au jour d'aujourd'hui. Et quand j'entends tous les jours les hommages que vous faites par rapport à 68, c'est exactement ça. Ça rappelle plein de souvenirs. C'est quand je me rends compte qu'il y avait un véritable engagement, quoi. C'est-à-dire qu'on sentait que dans l'air, il y allait avoir un bouleversement. Et petit à petit, ça allait crescendo. Tous les jours, ça montait, tous les mouvements se rejoignaient. Alors moi, j'étais gosse, mais en même temps, on sentait quand même les restrictions, on sentait ça. Puis bon, bah c'est quand même ce qui a fait chuter le général de Gaulle, quoi. Hein.
Mais vous qui aviez 12 ans, Gérard, vous disiez quoi? Je suis trop petit pour y aller, j'aimerais y aller, j'aimerais être plus grand. Comment vous arriviez à vous positionner, vous, à 12 ans?
Ah ben moi, j'étais un peu comme les autres, quoi. C'était l'euphorie. On sentait que, vous voyez, bon, je dirais pas qu'on sortait de l'oppression, mais il y avait des interdits partout. Enfin bon, c'était pas du tout comme maintenant. Alors et bon, oui, j'y suis allé, quoi. Je suis allé voir. J'ai eu une trouille monumentale parce que c'était très violent. Comment il y avait des lacrymos qui balançaient de partout. Il y avait un mouvement d'étudiants, mais il y avait vraiment des jeunes qui avaient une conviction, quoi. C'est-à-dire que bon, à l'époque c'était Che Guevara, c'était Cobendit, c'était Krivine. Voilà, tout le monde était rouge dans le sens du terme. Et puis refaire le monde, quoi.
Ce qui est incroyable, Éric Alary, et vous le dites très bien au début de votre livre, on pouvait pas imaginer que ça allait péter, parce que tout se passait bien à cette époque-là. Un petit peu avant, on se disait la France allait bien, économiquement ça allait bien, personne ne se plaignait finalement de la situation.
Ça, c'est une des caractéristiques de l'histoire sociale. On peut jamais prévoir un mouvement. 36, personne ne l'avait prévu. La Commune de Paris en 1871, personne ne l'avait prévu. Les grandes grèves de 1947-48, terribles, personne ne les avait prévues. Mais mai 68, effectivement, alors va concentrer un certain nombre de mécontentements et surtout d'inquiétudes. Le général de Gaulle avait un projet éducatif, c'était de faire entrer à l'université un maximum de jeunes Français, ou de plus en plus de jeunes Français. Mais il faut dire qu'en 3 ans, le nombre d'étudiants est passé de 200 000 à 500 000. Et l'État n'a pas suivi sur le plan matériel. Ce qui fait que les étudiants se sont retrouvés...
Dans des préfabriqués,
se retrouvaient par terre assis, donc ils se retrouvaient parfois comme à Nanterre, au milieu de nulle part, dans un terrain vague, encadré par les bidonvilles qui étaient, qu'on appelait la zone à Paris à l'époque. Il n'y avait pas d'eau courante, donc vous aviez plusieurs couches sociales mélangées. Il n'y avait pas le RER pour aller à Nanterre à ce moment-là, donc pas d'occupation ludique. Les filles devaient rentrer à 20h à la résidence universitaire, les garçons avaient le droit de rentrer à la résidence universitaire à 23h. Donc sexisme, ségrégation des règles, des conseils de discipline pour un oui ou pour un non. C'est vrai que c'était très dur. Il a raison, Gérard, c'était les blouses à l'école, c'était les garçons d'un côté et les filles de l'autre. En 1967, tout de même, il y a une inquiétude puisqu'on crée la NPE. En France, et il n'y avait à l'époque que 500 000 chômeurs. Je n'aurais pas pu dire cette phrase-là d'ailleurs en 1967, puisque 500 000 chômeurs, c'était énorme dans les représentations que les Français avaient du chômage. On était passé d'ailleurs en France de 200 000. C'était 5% des actifs tout de même, 5%.
Ah oui,
on était passé de 200 000 à 500 000. Il y a des mouvements. L'école est obligatoire jusqu'à 16 ans depuis 1967. Donc, et du côté des jeunes, ce que je retiens de Gérard, c'est vrai qu'il y avait une folle envie d'espérer. On était en pleine 30 glorieuse, et les jeunes avaient envie un peu de faire oublier à leurs parents, finalement, la guerre d'Algérie, la Seconde Guerre mondiale, tout ça en même pas 20 ans.
On avait envie de lâcher les mocassins, un peu. Merci beaucoup Gérard d'être venu témoigner sur France Bleu. Mai 68, vos souvenirs, vous qui l'avez vécu, vous ou vos parents, c'est au 0810 055 056.
Partagez vos bons conseils. On se dit tout sur France Bleu.
Ça ne vous a pas échappé, on parle beaucoup de mai 68 en ce moment. C'était il y a 50 ans, la France s'enflammait par les étudiants d'abord, puis les ouvriers qui ont à leur tour bloqué les usines. Vous étiez étudiant, salarié à cette époque-là. Quels souvenirs vous en gardez? Qu'est-ce que vous entendiez de mai 68? Et puis peut-être que vous êtes allé plus loin encore et que vous étiez au cœur de ce mouvement. 0810 055 056 mai 68 de l'intérieur ou avec un regard plus lointain, c'est aujourd'hui sur France Bleu et nous partons maintenant en Gironde avec André. Bonjour André.
Bonjour.
À l'époque, bonjour, vous étiez à Vénissieux, à l'époque, en mai 68, vous aviez 14 ans.
Oui, c'est ça. Alors, j'habitais sur Vénissieux, j'allais au lycée sur Lyon 8e, Lyon, le boulevard des États-Unis, dans un lycée de jeunes filles de bonne famille, plus ou moins quand même, et où il n'y avait pas du tout de politisation. Voilà, donc...
Mais vous saviez ce qui se passait, en fait, à ce moment-là.
Je savais ce qui se passait parce que on avait des informations, surtout à la télévision, les images de Paris, les barricades, enfin tout ça, on voyait ça à la télé, quoi. Et en même temps, il y avait donc cette grève générale qui est arrivée, qui a fait que on n'avait plus d'argent, on n'avait plus de quoi se nourrir. Et la mairie de Vénissieux, qui était une mairie communiste, avait décidé de faire une cantine comme une soupe populaire pour tous les gens qui avaient plus de moyens pour se nourrir. Donc on faisait la queue pour le midi au moins. Voilà, pour aller manger dans cette cantine.
Mais oui, parce que la France était bloquée, il faut l'expliquer, voilà, Eric Alary, peut-être.
Au bout de quelques semaines, effectivement, il y a eu des problèmes de blocage. 10 millions d'ouvriers, d'employés sont dans le mouvement social à partir du 13 mai 1968. Presque un quart de la population française est dans la rue. On retient souvent l'aspect étudiant et André a raison d'évoquer ce problème social majeur. Il y avait beaucoup de mécontentement. Les salaires étaient extrêmement faibles dans le milieu ouvrier, même chez les employés. Les musées aussi se sont mis en grève. On manque d'essence, on a des problèmes pour aller enterrer les personnes décédées. L'armée essaye de donner de l'essence à quelques passe-droits, évidemment, institutionnels. Mais effectivement, ça a été assez violent. Alors, il y a la télévision, mais tout le monde n'avait pas la télévision pour regarder ce qui se passait. Il y avait surtout les transistors qui ont été achetés d'une façon record. D'ailleurs, en 1968, il y a un pic de vente des transistors. D'abord, c'était très utile pour les étudiants. Et ceux qui faisaient les reportages, comme celui qu'on a entendu tout à l'heure, avait à peu près le même âge que les manifestants. Et d'ailleurs, on est assez surpris quand il dit c'est extraordinaire, les pavés volent. On a l'impression qu'il est au spectacle, qu'il est en train de regarder un film de Star Wars, par exemple, et les étoiles qui volent. Non, mais c'est intéressant ce qu'elle dit. Alors, en revanche, les files d'attente n'ont rien à voir avec celles de l'occupation. Mais c'est vrai que les Français ont eu très très peur, que le pouvoir a agité cette peur-là. Seulement, le pouvoir s'est mis l'opinion à dos quand les premières images d'étudiants saignants et battus à terre ont été montrées.
Là, c'était autre chose. Qu'est-ce qui vous en reste, vous, aujourd'hui, André, de cette période, de cette époque de mai 68?
Je pense une rebelle dans l'âme, parce que je suis née le 14 juillet, alors c'est possible. Mais en tout cas, je me souviens avoir participé aux ventes de brioches du Parti communiste avec ma voisine qui avait son mari qui était conseiller municipal, etc. Enfin, moi, j'étais un petit peu de tous les mouvements.
Les ouvriers ne mangeaient plus. Il fallait les nourrir.
Associatif, etc. Et j'ai jamais vraiment été politisée à ce moment-là. Enfin, je le considère pas comme ça, mais j'avais pas non plus trop conscience du bouleversement que ça allait être. C'est surtout en 70-71, quand j'ai été un petit peu plus âgée et que les mouvements continuaient un petit peu quand même.
Mais il y a eu des réveils et il y a eu des consciences politiques aussi qui se sont éveillées, effectivement, suite à mai 68. André, merci beaucoup pour ce témoignage, de nous l'avoir raconté, votre façon à vous d'avoir vécu mai 68 à Vénissieux. Et on continue de vous écouter, c'est le sujet qu'on a choisi pour vous aujourd'hui sur France Bleu.
Des moments de vie uniques, des histoires universelles, on se dit tout sur France Bleu.
Qu'est-ce qui nous reste de mai 68? Qu'est-ce qui vous reste surtout de mai 68? On en parle aujourd'hui comme un tournant dans notre société pour les étudiants, les salariés, mais aussi pour la politique de façon plus large. Et puis, mai 68, c'est la musique, les slogans, la mode, un vent de liberté qui soufflait alors sur la France. Vous l'avez vécu en tant qu'étudiant, en tant qu'adulte, ou alors ce sont vos parents qui l'ont vécu et qui vous ont ensuite parlé de mai 68. 0810 055 056, racontez-nous ce qu'il vous en reste aujourd'hui. On se dit tout avec le docteur en histoire Eric Alary qui signe un magnifique livre il y a 50 ans, mai 68, aux éditions Larousse. Et Michel, depuis Lyon, nous a rejoint. Bonjour Michel.
Bonjour mademoiselle.
Oh, c'est gentil ça mademoiselle, j'aime. Même s'il paraît qu'on n'a plus le droit de le dire, moi historiquement, je l'aime toujours.
D'accord.
Michel, vous étiez à l'université de Grenoble à l'époque.
Oui, et j'étais rentré en octobre 67 et la première chose qui m'avait j'ai découvert le monde universitaire, je venais de Haute-Savoie et en février je suis allé dans l'espèce de grand stadium quand on a inauguré les Jeux Olympiques avec De Gaulle et j'ai assisté à une scène que j'ai essayé d'oublier par la suite. Les jeunes étaient montés sur un grand pylône avec projecteur qu'on avait installé sur place pour essayer de voir de plus haut. Et les CRS étaient venus leur dire de descendre, ils avaient refusé. Les CRS sont allés les chercher à coups de pied, à coups de poing, tirer les cheveux, les frapper, les refrapper à nouveau et ensuite les faire disparaître. Ça m'avait profondément choqué, j'étais sorti de là, j'étais très fébrile et après j'ai voulu oublier ça.
C'était trop violent.
C'était très violent. Et quand j'ai vu les premières images du 3 mai 68, j'ai dit « Ah mais ça correspond bien à la violence policière que j'ai vue à l'inauguration des Jeux Olympiques. » Et comme j'étais dans une famille très gaulliste, je dirais même gaullienne, ça contredisait mon ambiance. Quoi.
Ah, mais alors justement, comment ça se passait les repas de famille, Michel, avec vous, jeune, d'un côté.
Tenons les bains, j'allais pas souvent à la maison. Alors quand ça commençait à bouillir un peu dans toutes les universités de France, eh ben je suis pas rentré. Et puis après, eh ben évidemment que c'était la dispute continuelle avec les grands-parents, le papa, etc. Et c'était évident que ça m'a donné beaucoup moins envie de rentrer à la maison à ce moment-là.
C'est vrai, Éric Alaric, là, ce sont deux mondes qui s'opposent, deux Frances qui s'opposent. Une France très statique avec De Gaulle et puis la jeunesse qui a envie de renverser un petit peu tout ça.
Oui, Michel l'a évoqué, ces Français qui étaient mis dos à dos finalement par une situation. Certains avaient envie d'avancer, profiter des Trente Glorieuses, d'être dans la modernité en quelque sorte. Et puis l'autre monde qui était le monde gaulliste, c'était un monde qui était très réformateur. Faut pas oublier toutes les réformes que le général de Gaulle a faites entre 1958 et 1967, y compris dans le milieu éducatif. Mais enfin, quand il rentre, Michel, en octobre 67 à l'université, à Paris, il y a 11 000 étudiants qui n'ont pas pu faire leur rentrée, faute de place. Il se trouve aussi que dès la fin de 67, effectivement, il y a eu des violences un peu partout en France, qu'il y a des comités d'action lycéens qui se mettent en place, qu'il y a des manifestations d'étudiants déjà à Nanterre au mois de novembre 1967, et que la violence apparaît assez souvent présente sur les milieux des manifestations. Et les policiers, en fait, n'étaient pas préparés non plus à ce type de manifestation, notamment dans le 7e arrondissement de Paris, mais aussi à Lyon, dont on a parlé tout à l'heure, où la violence a été extrême, puisqu'un commissaire de police a été tué par une camionnette qui a été lancée sans chauffeur dessus. Et donc la police et la gendarmerie n'étaient pas prêts à faire du combat de rue. C'était pas du tout ce qui s'était passé avant, notamment dans les années 30, et même en Algérie, il y avait une forme de guérilla, mais c'était l'armée en Algérie. L'idée de faire participer au maintien de l'ordre l'armée a effleuré le général de Gaulle, mais ça ne s'est pas fait parce que l'opinion va se retourner contre le général de Gaulle suite aux violences qui ont été montrées, montrant justement des étudiants saignants, très gravement blessés, et des policiers s'acharnant dessus. Mais le préfet de police de Paris a été, pour parler de Paris,
il
et d'autres préfets
dialogue,
de police,
quand même, beaucoup,
était dans le dialogue, Grimaud, Grimaud, et Pompidou aussi, le premier ministre du général de Gaulle, qui a tout fait pour éviter et le vent révolutionnaire, pour contrer les gauchistes, et de l'autre, pour éviter qu'il y ait un véritable bain de sang.
Merci beaucoup Michel pour ces souvenirs, merci de les avoir racontés sur France Bleu. Mai 68, comme vous l'avez vécu ou comme vous en avez entendu parler, c'est le sujet d'On se dit tout avec vos appels au 0810 055 056.
Vos témoignages, vos expériences. On se dit tout sur France Bleu.
La grève des cheminots, celle d'Air France, la révolte étudiante avec Parcoursup. Nous sommes en mai 2018, mais ça rappelle un petit peu mai 68. C'était il y a 50 ans et vous l'avez vécu de près ou de loin. En tant qu'étudiant, en tant que salarié, en tant que gréviste, vous avez participé à la lutte ou vous étiez juste spectateur de ces événements, soit parce que vous étiez trop loin ou trop jeune. 0810 055 056 pour nous rejoindre et nous raconter. Et si ce sont vos parents qui ont vécu mai 68, ils vous en ont forcément parlé. Est-ce qu'ils ont longtemps gardé cet esprit, mai 68? On en parle avec vous sur France Bleu et avec Éric Alary qui signe le livre il y a 50 ans, mai 68, aux éditions Larousse. Et nous sommes à Grenoble avec Jean. Bonjour Jean.
Oui, bonjour à vous et bonjour à monsieur Alary.
Bonjour Jean.
Alors, je dois dire que j'avais 20 ans dans les années 68, donc j'ai vécu, si vous voulez, cette situation. Je dois dire qu'effectivement, il y avait de grands meetings et c'est vrai que, j'allais dire, il y avait un mélange intéressant des différents groupes d'employés, d'ouvriers, des choses comme ça.
Jean, attendez, je vous coupe deux secondes, Jean. Est-ce que vous pouvez couper votre radio derrière ?
Ah oui, oui, mais c'est ce que... Non, mais j'ai pas de radio, ça doit être le haut-parleur.
Ah oui, il faut couper le haut-parleur, sinon on vous entend deux fois, en fait.
Attendez, je vais essayer, parce qu'il y a peut-être des interférences. Alors, voilà. Allô ?
Ah bah oui, c'est vachement mieux comme ça.
Voilà.
Ah, c'est merveilleux.
Donc, si vous voulez, j'en reviens à ce que je vous disais. Effectivement, c'était quand même assez chaud comme ambiance, vous voyez ?
Ouais.
Et d'autre part, comme je disais à votre collaboratrice, en 68, il y a eu des crimes déguisés sous couvert politique. Ça, il faut pas l'oublier. Il faut pas l'oublier.
Des
je
crimes
dois dire
déguisés,
que ça,
c'est-à-dire
c'est dramatique.
Qu'est-ce que vous voulez dire, Jean ?
Donc, si vous voulez, c'était plutôt... Bon, moi j'avais un grand-père qui était officier, un grand officier qui a connu le général de Gaulle, auquel il adhérait. Mais mon grand-père est mort en 1967 et il a dit, avec le général, ça terminera par une révolution parce qu'il est trop têtu. Et je dois féliciter Monsieur Grimaud, qui était le préfet de police de Paris, qui a évité justement des bains de sang, et certainement Monsieur Pompidou aussi. Mais je pense que, si vous voulez, la situation était très grave. Je dois dire que maintenant, mai 68 est absolument impossible. Pourquoi? Parce que finalement, on est dans un système de civilisation froide. Donc cette civilisation froide fait que finalement, l'humanité, ce que nous avons connu, le respect de la propriété, le respect de la personne et en même temps la relation de service, n'existe plus. On est dans une certaine forme de cupidité, où la cupidité, si vous voulez, a ses armes, c'est-à-dire les armes, c'est la force. Et quand il y a la force, j'allais dire, c'est le conflit.
Alors là, je me tourne vers notre grand témoin, Éric Alary. Forcément, on se pose la question avec... on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de gronder en ce moment. Est-ce que mai 68 peut se reproduire? C'est un peu ce que les gens nous disent, que non, c'est pas possible.
Nul ne sait. Pour un historien, c'est difficile de se prononcer sur l'avenir. Il y a toujours... Comparaison n'est pas raison en histoire. Il y a quelques points communs, effectivement. Aujourd'hui, les jeunes ont d'autres façons de se mobiliser. Et d'ailleurs, c'est vrai que le mouvement actuel a quand même mis beaucoup de moyens en œuvre. Et finalement, il n'y a pas autant d'étudiants dans la rue, il n'y a pas autant de cheminots dans la rue, alors qu'il y a 30 ou 40 ans, ils auraient été beaucoup plus nombreux, parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres façons de se mobiliser, notamment à travers les réseaux sociaux. Également, je crois que, pour un petit peu compléter ce que dit Jean, en 1968, il n'y avait pas de grande désespérance. On ne peut pas parler de révolution, c'était une révélation, la révélation d'un fossé entre une classe politique vieillie et des jeunes qui aspiraient à sortir de cette époque de la reconstruction. Ils avaient vu leurs parents peiner et personne ne voulait tuer l'autre. Les policiers n'ont jamais cherché à tirer à balles réelles sur les étudiants, et aucun étudiant n'a voulu mourir comme un romantique sur les barricades. C'était les aventures. Et d'ailleurs, la partie a été sifflée. La fin de la partie a été sifflée au moment des élections convoquées par le général de Gaulle en juin. Les Français se sont occupés du sort du général de Gaulle un an après en lui disant non au référendum. Ils ne répondaient même pas à la question, mais à de Gaulle, qui faisait d'un référendum un véritable plébiscite. Alors aujourd'hui, les jeunes se mobilisent autrement. Ce qui est assez différent, c'est que aujourd'hui, il y a beaucoup plus de chômeurs. Il y a plus de désespérance, me semble-t-il, qu'en mai 68. Que les revendications souvent sont plus corporatistes et individualistes, certainement, à vérifier encore dans le futur, qu'en 1968, où les revendications et les slogans étaient très collectifs.
Merci Jean d'être passé par France Bleu, et on continue, allez, encore 20 minutes pour parler de mai 68 avec vous sur France Bleu.
Partagez vos bons conseils, on se dit tout sur France Bleu.
Il y avait Cohn-Bendit, il y avait De Gaulle, il y avait surtout les étudiants, ceux de Nanterre, de la Sorbonne, les salariés des usines qui fermaient les unes après les autres. Certains parlaient de révolte, d'autres de liberté. Et vous, vous l'avez vécu comment ce mai 68, vous ou vos parents peut-être? Est-ce que quand on était étudiant en Auvergne, on le vivait aussi intensément qu'à Paris? Est-ce qu'à 10 ans, on comprenait vraiment ce qui se passait? Et quand on a eu des parents qui se sont révoltés, est-ce qu'on en est fiers aujourd'hui? Venez témoigner au 0810 055 05 56 avec Éric Alary, notre grand témoin, auteur du livre Il y a 50 ans, mai 68, aux éditions Larousse. Et Bachir est avec nous depuis Paris. Bonjour Bachir.
Oui, bonjour France Bleu.
Vous aviez 22 ans en France depuis 6 ans et vous étiez dans une entreprise de métallurgie, vous dites?
Exactement, une petite entreprise métallurgique. On n'avait pas de, en ce moment-là, nous, on n'avait pas de syndicat. Mais on était le, donc on avait de l'espoir sur les mouvements de grève qui se passaient, parce que donc il y avait des discussions pour augmenter le SMIG, pour les vacances et plein d'autres choses qu'il y avait dans les revendications. Bien sûr, sur ce qui s'est passé avec les étudiants, moi j'étais un peu choqué, je pensais pas que j'allais trouver ça, voir ça en France. Il y avait vraiment des bagarres et ça nous choquait un peu avec les étudiants. Mais on avait beaucoup quand même d'espoir sur après, quand les syndicats ils ont repris les choses en main et qu'ils ont obtenu, vous savez qu'ils ont obtenu pas mal de choses. Le SMIC, je me rappelle, on nous a augmenté de, je crois, de près de 20%, si je me souviens bien, minimum, nos salaires. Et tout, voilà un peu ce que je me souviens. Et après, on s'est syndiqué dans notre petite entreprise et on a créé notre premier syndicat.
C'est important ce que vous racontez, Bachir, parce qu'on se demande souvent, on croit souvent qu'il y a eu deux mouvements, le mouvement des étudiants, le mouvement des salariés. La question, c'est surtout comment ce mouvement s'est déplacé, en fait. Et on voit bien que c'était pas pour rien. S'il y a eu autant de grévistes dans les usines, s'il y a eu autant de gens qui se sont mobilisés.
Oui, je pense que, comme Bachir le dit, ceux qui prennent, qui passent en première ligne, pourrait-on dire, ce sont les ouvriers à partir de mi-mai. Les étudiants dans les manifestations sont souvent relégués à l'arrière, mais les ouvriers prennent le mouvement en main. Et les salaires étaient très bas. Les accords de Grenelle prévoient une augmentation du SMIC horaire de 35% et l'augmentation des autres salaires de près de 10%. Donc il y avait vraiment une très grande faiblesse des salaires. Quant aux vacances, Bachir a dû être entendu, et ses camarades, puisque aux accords de Grenelle, la quatrième semaine de congés payés a été décidée. Donc il fallait absolument éteindre le feu, mais il y avait quand même beaucoup de retard. C'est-à-dire que les Français ne profitaient pas des fameuses 30 glorieuses, et notamment de la croissance économique. Et là, ils ont poussé le gouvernement à faire des concessions, et notamment le patronat à faire des concessions. Mais il y avait beaucoup de divisions entre les cadres des syndicats et la base. La base n'écoutait plus la direction des syndicats, quand il y en avait.
Et vous en gardez un bon souvenir, Bachir, de ce mai 68 ?
Bien sûr, exactement. Là, j'ai gardé un bon souvenir. C'était vraiment tout le temps le mouvement, la nuit, le jour. C'était vraiment l'actualité permanente pendant ce mois-là.
Cette impression de...
Et je me rappelle, il faisait beau en plus. Il faisait très beau ce mois de mai-là de 68. Oui.
Non, puis l'impression de faire partie un peu d'histoire.
J'appréciais beaucoup là les commentaires de votre invité. Là, je pense que c'est la réalité. Donc le SMIG, c'est même plus ce que j'avais dit, c'est au moins 30%. Et ça, ouais. Ça nous a vraiment soulagés.
Merci beaucoup, Bachir, d'être passé par France Bleu. On vous embrasse et on reste dans la région parisienne avec Catherine qui est avec nous. Bonjour, Catherine.
Bonjour.
Vous étiez juste en face de la fac de Nanterre. Vous aviez 11 ans en mai 68.
Oui. Excusez-moi si je suis un peu émue. Moi, ce que j'en garde comme souvenir, c'est de la fenêtre et simultanément avec la télévision qui faisait des vagues parce qu'il y avait des baisses de tension. Sur les de la fac, il y avait des assauts des CRS et puis beaucoup de fumée et on voyait les étudiants, quoi. Mais le plus grand souvenir que je garde de cette époque-là, étant enfant, comme je disais à votre collaboratrice, c'est qu'on était dans une cité populaire juste en face de la fac, et rien que dans notre escalier, il y avait 10 familles, et on était 50 enfants. Je vous dis pas. Alors, ça a été l'époque pour nous de grands jeux, mais en même temps, nos parents qui vivaient le conflit social, quoi.
Et on en parlait entre enfants, on se réunissait dans les cages d'escalier, on discutait.
Ah, on se réunissait pas dans les cages d'escalier. On se faisait rouspéter à cette époque-là.
Ah bon, d'accord.
Ah non, on n'avait pas ce genre de problème social. Nous, les enfants, notamment de grévistes, on se démarquait parce que on avait une carte que les piquets de grève avaient donnée aux grévistes. Mon père travaillait Hispano-Suiza à Bois-Colombes, une usine qui a été reprise par Asnecma et ensuite par le groupe Safran et qui existe maintenant à Bois-Colombes. Je ne sais pas s'il y a encore de la production, mais mon père était ce qu'on appelait sémentier vulcanisateur et il a fait pratiquement la grève.
Et là, j'aime bien ce mélange des salariés grévistes, des enfants qui sont là aussi, la fac pas loin. Là, on a un résumé de mai 68.
Ouais, il y a du monde un peu partout. À Auxerre, les femmes apportent à manger aux gars qui sont sur les piquets de grève. Il y a même jusqu'à l'évêque qui vient soutenir les oies. Il est fidèle, car beaucoup d'ouvriers à l'époque allaient encore à l'église. Et l'église, à un moment, devant la longévité du mouvement, devant le blocage de la situation politique, même les membres du clergé sont venus aider. Alors il y avait le prêtre, l'évêque, les enfants et la grand-mère qui venaient soutenir les gars. C'était souvent les gars qui étaient sur les piquets de grève. Il y a eu aussi des femmes, bien évidemment. Mais, comme dans la société domestique, sur les piquets de grève, c'était les hommes qui étaient en avant. La société restait bien machiste dans le mouvement à la Sorbonne, comme sur les piquets de grève.
Les femmes ont commencé à se réveiller, mais ça a été un petit peu plus lent. Merci Catherine d'être passée par France Bleu. La dernière partie dont se dit tout arrive dans un instant. On parle de mai 68 aujourd'hui.
Vos témoignages, vos expériences. On se dit tout sur France Bleu.
Et on parle de mai 68 depuis presque une heure avec vos témoignages très nombreux, avec notre grand témoin également Éric Allary et ce magnifique livre il y a 50 ans, mai 68 aux éditions Larousse. J'arrête pas de dire qu'il est magnifique, mais je le dis pas juste pour vous faire plaisir, mais parce qu'il l'est vraiment, il y a énormément de documents. Et puis, je le disais au début de cette émission, reproduction de documents originaux. Ça, c'est important aussi de voir ce qu'on écrivait, de voir comment on l'écrivait,
les articles de presse. Les tracts du côté des étudiants, mais voir aussi un certain nombre de textes écrits par Grimaud, par exemple, des textes policiers. Alors, il y a beaucoup de tracts. Il y a aussi une bande dessinée situationniste, qui était ce groupe minoritaire d'idéologues qui rêvaient de la vie sexuelle libérée, aucune contrainte, aucune autorité. Bon, ils étaient minoritaires, mais leurs idées ont beaucoup amusé. Des affiches de l'école des Beaux-Arts, qui a été en grève et qui était celle qui fabriquait toutes les grandes affiches qu'on a vues de couleur rouge ou bleue, etc., qui ont inspiré d'ailleurs tous les slogans de la province. La province s'inspirait des slogans de Paris à ce moment-là. Et en même temps, bien sûr, il y a les Unes de l'Humanité, de François, avec des photos donc qui sont assez éloquentes sur le mouvement de mai 68.
On a l'impression qu'il y a une certaine fascination 50 ans après pour mai 68 et une certaine fierté aussi de ceux qui l'ont vécu.
C'est vrai. J'ai l'impression, dans les conférences ou dans les présentations d'ouvrages, que beaucoup parlent comme des anciens combattants, d'une époque héroïque, d'une époque nostalgique, où finalement, ils ont l'assurance d'avoir fait bouger les lignes, en quelque sorte, d'avoir permis aux Françaises, notamment, de prendre conscience qu'elles pouvaient parler davantage, et ont permis aussi aux enfants d'être ensemble dans une même classe, qu'ils soient garçons ou filles. Voilà ce que c'était aussi cette année. C'était assez festif aussi, mai 68.
Eh ben 68, on continue d'en parler avec notre page internet, notre site internet, voilà, je vais y arriver, francebleu.fr, pour retrouver la web radio, pour retrouver la série mai 68, pour retrouver plein de documents. Et puis bien sûr, je vous encourage à lire ce magnifique livre il y a 50 ans, mai 68 aux éditions Larousse, avec Éric Allary qui était notre grand témoin. Merci beaucoup d'avoir été avec
Merci
nous.
Merci Vanessa.
On se retrouve demain pour un autre numéro d'On se dit tout. J'espère que vous serez avec nous. Si jamais vous avez raté le début de cette émission passionnante, sachez que vous pouvez la réécouter en podcast en allant sur notre site francebleu.fr.